conseil municipal, séance du conseil municipal le jeudi 15 février 2024 à 20h39, enregistrement intégral et sans pause, sans transition. Nous allons commencer par l'appel nominal. Alors, Thomas Valérie présente. Traclet Vincent, excusé, pouvoir donner à Valérie Thomas. Bonomo Elisabeth.
Présente.
Viennot Jean-Marc.
Présente.
Viennot Delphine.
Présente.
Pujat Angélique.
Présente.
Argé Michel.
Présente.
Ferron Catherine.
Présente.
Julien Christian, excusé et donne pouvoir à Jean-Marc Viennot. Passarella Victor, absent. Auré Patrice.
Présente.
Grumet Estelle, absente. Caropi Damaris.
Présent.
Gauthier Lionel.
Présent.
Et Dost Véronique, elle est absente. Bien. L'ordre du jour nous demande d'approuver le compte-rendu du conseil municipal du 7 décembre 2023. Est-ce qu'il y avait des remarques sur ce compte-rendu ? S'il n'y avait pas de remarques, je vais donc demander votre approbation. Est-ce qu'il y a des votes contre ? Des abstentions adoptées. Je vous remercie. Il est temps pour nous de désigner un secrétaire ou une secrétaire de séance. Eh bien, avec tous nos remerciements, notre secrétaire de séance est Delphine. Avec un stylo. La première délibération, c'est une délibération qui concerne la vidéoprotection. Alors, nous avions, lors de la séance du 15 juin 2023, délibéré pour solliciter une subvention de la région concernant le renouvellement de nos caméras. Nous en avons 7 existantes et avec un ajout de 3 nouvelles. Alors, il y avait un plan de financement. On avait fait faire un devis par l'entreprise Serfimtic, qui est l'entreprise qui gère nos caméras au jour d'aujourd'hui. Et la subvention demandée était pour un montant hors taxe de 114 129 euros. Depuis ce premier devis, j'avais rencontré un maire qui m'avait dit de solliciter une autre entreprise, qui était l'entreprise Eiffage. Et à ce propos, je voulais remercier Jean-Marc parce que ça a été un gros travail de recevoir toutes ces entreprises, de passer beaucoup de temps avec elles pour à chaque fois faire l'inventaire de toutes nos caméras, de tout ce qu'on voulait, etc. Ça a pris beaucoup de temps. Donc l'entreprise Eiffage a fait un devis. Et j'ai à nouveau rencontré un autre maire qui m'a conseillé de faire un devis par une autre entreprise qui s'appelle Lease Protect et pour lequel nous avons obtenu un nouveau devis pour le montant de 65 955 euros. Alors étant donné que c'était 3 montants différents et que la première fois nous avions sollicité une subvention pour 114 129 euros, eh bien il nous faut ressolliciter en fait ces mêmes subventions auprès de la région et de l'État avec le bon montant du devis parce qu'on ne pourrait pas obtenir une subvention plus importante que le devis que nous souhaitons accepter. Donc c'est pour ça qu'on vous demande de votre accord à nouveau pour pouvoir donc solliciter la région Auvergne-Rhône-Alpes et l'État. Le département de l'Ain, lui, avait été déjà sollicité une première fois, mais la subvention ne nous a pas été attribuée puisque l'enveloppe budgétaire au niveau du département est passé compte tenu des nombreuses demandes. Donc si nous résumons, le nouveau plan prévisionnel de financement prévoirait, si toutes les subventions sont accordées, une participation de la commune à hauteur de 13 191 euros, puisque nous pouvons, pour ce type d'installation, obtenir jusqu'à 80% de subventions. Voilà, donc il vous est demandé donc d'approuver ce plan de financement, d'approuver le fait que l'on sollicite les subventions auprès de la région et de l'État. Et si nous les obtenons, de pouvoir demander à la société Lease Protect de pouvoir effectuer ces travaux d'amélioration et de développement de notre système de vidéoprotection, qu'il faut bien le dire, Jean-Marc arrive un petit peu à bout de course.
Il nous reste 2 caméras.
Ouais, il est un petit peu fatigué, mais ça, faut pas le dire. mais c'est vrai que malheureusement, il commence à dater, hein, puisque évidemment, il avait été installé tout en même temps. Donc, les caméras, malheureusement, ce qui est aussi normal compte tenu du fait qu'elles sont installées en extérieur, etc., subissent des dégradations. Voilà. Donc, est-ce que vous avez des questions sur sur cette demande de subvention pour le renouvellement de nos caméras ?
Il y a presque 40% d'écart entre l'offre la plus disante et l'offre la plus chère.
Ouais.
Juste une question pour Jean-Marc, en termes de prestations techniques et matériel, c'est comparable.
Apparemment, le matériel est identique.
D'accord.
Et puis après, bon, vis-à-vis des communes qui s'en servent, ils sont contents de leur matériel, donc ils sont. Alors, je ne sais pas si c'est eux qui tirent les prix vers le bas ou les autres qui, comme ils se sentaient en pays conquis, nous arnaquaient, enfin arnaquaient. C'est jamais. Ils gagnaient bien leur vie, quoi. Mais apparemment. Et puis, ce serait plus simple, là aussi. C'est une boîte moins grosse qui est plus facile à contacter. Parce que là, les boîtes, t'as comme Eiffage et compagnie, c'est taper 3, taper minceur, taper truc. Et c'est compliqué pour les avoir. Et puis, est-ce que. Ben, pour l'instant, bien sûr, on n'a encore pas acheté chez eux. Quand tu les appelles, ils répondent tout de suite. C'est comme quand tu achètes une bagnole, tu me diras, t'as un représentant et il t'appelle 10 fois par jour. Et puis, une fois que tu as acheté la bagnole, il ne te connaît plus. Mais bon. Pour l'instant, bon, c'est bien moins cher. Hein,
c'est... Non, mais plus
dire, c'est. Et il y a même une caméra de plus, alors. Donc,
Alors en fait, c'est parce que c'est en discutant avec d'autres maires. Hein. Bon, Eiffage, c'est une grosse société, c'est une mairie qui est à côté et qui est très contente du service. Hein, donc c'est pour ça qu'on avait demandé. Et Elise Protect, c'est un maire et qui l'a fait installer aussi dans d'autres communes autour et qui est très content. Ça fait 3 ans. Donc on peut dire qu'il a un peu de recul. Et il m'avait dit, essaye de les solliciter. On a vraiment fait ça un petit peu. Jean-Marc, il a bien voulu y consacrer du temps. Et finalement, voilà.
Ils sont basés où, là, cette société ?
Ils sont pas très loin, hein. Puisque moi, c'est le maire de Misérieux, Gabi Aumônier, qui m'avait donné leurs coordonnées. Donc Misérieux, c'est la communauté de communes d'Ampson-de-Vallée. C'est juste vers Trévoux. Et ils sont situés vers Villefranche, je crois. Hein. C'est vrai que c'est une plus petite structure. Alors, on est en train de chercher.
Alors, le siège est à Marseille, mais ils ont une antenne à Lyon.
Ils ont une antenne à Lyon. Le siège de l'entreprise est à Marseille. Et ils sont représentés à Bordeaux, à Rennes, à Rouen.
7 agences.
Ils ont 7 agences, mais ils ont une antenne à Lyon, en fait.
À Villeurbanne.
C'est Villeurbanne, exactement. Voilà. Oui, s'il y a une antenne, c'est bon. Oui.
Non, c'est pas non plus un artisan, quoi.
Non, c'est pas une petite société. C'est une petite structure, enfin une plus petite structure sur la région Rhône-Alpes, mais c'est une société nationale.
Ok, il y a des garanties là sur la caméra. C'est quoi, c'est 1 an ou une question de curiosité.
Il y a des garanties sur le 2. Alors. On va regarder ça. Alors. Matériel installé.
Il y a
une maintenance annuelle qui est inclue dans la proposition. Ça, c'est sûr.
Bonne question.
C'est une bonne question.
Mais c'est peut-être parce que c'est du matériel à eux, finalement, et qu'en fait, il y a un entretien par eux.
Ah oui, mais de toute façon, tous, ils le proposent, la maintenance.
Ah
toutes les sociétés ont inclus une formule de maintenance, puisqu'il y a de la télémaintenance sous 2 heures et après un système de maintenance sur site en cas de problème.
Et c'est eux qui t'avertissent que ta caméra ne marche pas ou...
Alors, conforme à la législation, ça c'est sûr.
Et c'est un contrat qui est de combien de temps? Parce qu'en fait, ça se trouve, c'est ça.
C'est annuel. C'est annuel. De toute façon, la maintenance, elle est annuelle. Donc, je pense que du fait que la maintenance est... En fait, c'est sous contrat de maintenance. Parce que le contrat garantit la vente du matériel au client, l'installation, la mise en service, la démonstration et la formation. Et ensuite, donc, il y a la maintenance qui s'applique pour le bon fonctionnement du matériel, avec un coût qui est prêt. Alors, la garantie est d'un an contre tout vice caché et défaut de notre fait, à l'exclusion d'éléments consommables et de pièces d'usure. Donc, c'est 1 an au départ. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Eh bien, je soumets donc cette délibération à votre vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Adopté. Je vous remercie pour Sandra qui va maintenant aller remplir les dossiers pour aller chercher les subventions nécessaires. La deuxième délibération concerne l'Agence départementale d'ingénierie de l'Ain avec la signature d'une convention pour la poursuite de notre projet de bâtiment multimodal. Donc, pour rappel, en octobre 2021, on avait signé déjà une première convention pour étudier la faisabilité du réaménagement de l'école et la construction d'un bâtiment multimodal. Il y avait eu un premier rendu qui ne nous avait pas donné satisfaction. Il y avait eu incompréhension et ça n'avait pas permis d'aboutir à un projet pérenne. Suite à l'avancement, en plus de la révision du PLU de la commune et du recensement de la population que nous n'avions pas en janvier, enfin qui s'est fait en janvier 2023, mais dont nous n'avions pas connaissance en 2022, bien évidemment, avec les préconisations qui étaient données par les services de l'État, sachant que notre commune a déjà atteint la population qu'on aurait dû atteindre en 2030. Compte tenu de ce nouveau paramètre et pour optimiser la création d'un bâtiment multimodal, nous avions donc délibéré pour signer une nouvelle convention avec l'Agence départementale d'ingénierie de l'Ain. Les premières esquisses qui ont été présentées le 5 décembre 2023 ont abouti donc à une synthèse avec les faisabilités. Et donc maintenant, il vous est proposé de poursuivre l'avancée du projet par la signature d'une nouvelle convention qui prévoit cette fois de passer à la phase action, on va dire, avec l'étude de programmation, l'assistance à la passation des prestations intellectuelles, procédure de concours restreint sur esquisse, l'appui technique, l'appui administrative, l'assistance en phase de conception, l'assistance en phase de réalisation, l'assistance à la passation des marchés de travaux, l'assistance à la maîtrise d'œuvre et le suivi de chantier. Et là, le temps estimé n'est plus comme les premières fois de 7 et de 12 jours, mais plutôt de 71 jours, puisque là, c'est vraiment le dossier dans son intégralité. Et le montant hors taxe donc de ce projet de convention est de 31 950 euros. Donc c'est pourquoi il vous est proposé donc d'approuver cette nouvelle convention avec l'Agence départementale d'ingénierie de l'Ain et donc d'autoriser à signer celle-ci pour pouvoir continuer d'avancer et de construire ce bâtiment multimodal dont on a déjà parlé tous ensemble lors de commission générale et pour avancer, pour pouvoir proposer aux Tillois un nouveau lieu de vie moderne, répondant aux normes actuelles et puis plus efficient, plus grand aussi, pour pouvoir donc accueillir plus de population en même temps, compte tenu maintenant des nouvelles associations qui se créent, et c'est très bien, mais il faut pouvoir leur donner des lieux de vie qui soient aussi accessibles et puis pratiques en termes de cuisine, en termes de tout ce qui va avec. Est-ce qu'il y a des questions sur cette convention? Pas particulièrement. Non, bon, bah, si pas de questions, je propose cette délibération à votre vote. Est-ce qu'il y a des votes contre ? Des abstentions ? Adopté. Je vous remercie. Donc là, ça fera l'objet aussi, je pense, dans le courant de l'année, ben, d'une réunion publique qui résumera aussi toutes les actions qui ont été faites par de toutes nos actions qui ont été faites. Et puis, je pense, la présentation aussi à la population ben, des premières esquisses de ce bâtiment. La délibération suivante, je te cède de la parole, Babette, oui. Concernant les horaires de l'école.
Merci. Alors, nous devons délibérer sur la continuité ou pas du programme des horaires scolaires, sachant que c'est un programme sur 3 ans et que là, c'était arrêté entre 2021 et 2024. Là, on repart jusqu'en 2027. Donc, c'était ou bien on reste sur la semaine de 4 jours avec les horaires habituels, 8h30, la maternelle ouvre à 8h20, mais les horaires légaux, c'est donc bien 8h30 midi, et puis 14h, 16h30. Si on ne délibère pas et si l'école, au conseil d'école, ne vote pas à temps, c'est-à-dire avant le, je crois, 15 avril, on serait obligé de revenir à la semaine de 4 jours et demi. Or, il reprendrait à ce moment-là les anciens horaires. Or, il est bien évident que nous ayant en plus le projet d'un plan mercredi, et puis les familles sont... Le dispositif convient actuellement, surtout du fait que c'est quand même raccourci sur l'après-midi et les enfants sont plus opérationnels pour travailler jusqu'à midi le matin. Donc, nous avons vu avec l'école, ce sera quand même inscrit au conseil d'école, mais on a vu avec M. Pénard et avec Céline que c'était tout à fait normal donc de reconduire pour la période 2024-2027 les horaires en place. Voilà. Et puis, bon...
La semaine de 4 jours.
Voilà, la semaine de 4 jours.
Donc, c'est à nous de décider. C'est pas l'éducation nationale qui fait...
L'éducation nationale, elle a évidemment son mot à dire, mais nous, en tant que commune, puisqu'il y a les locaux qui sont occupés, les locaux appartiennent à la commune, les personnels périscolaires, comme c'est ce qu'on appelle une équipe éducative, c'est l'équipe éducative qui travaille et met en place justement l'accueil. Donc, effectivement, il y a un consensus.
C'est à la demande de la direction des services départementaux de l'éducation.
Voilà,
c'est là. Donc, je pense que c'est eux qui nous sollicitent pour qu'on valide les horaires. Bien évidemment, on fait en corrélation avec l'enseignant et puis les parents. Quoi.
Oui, oui, bien sûr. Alors, ce sera quand même inscrit au conseil d'école. Et voilà.
Voté et nous, aussi,
voilà.
Par le conseil d'école.
Mais effectivement, nous, de notre côté, on délibère aussi, sachant que je sais plus le pourcentage, mais je crois que 90% des écoles en France maintenant fonctionnent comme ça. On n'est plus revenu à l'ancien système. Mais si on ne répond pas à temps, par contre, ils nous remettent systématiquement à 4 jours et demi. Donc, c'est quand même pas le but. Voilà. Donc, est-ce que vous avez d'autres questions à ce sujet-là ? Non. Donc, y a-t-il des votes contre ? Non, d'abstention ? Eh bien, merci. Adopté.
Merci, Babette. Délibération suivante. Alors, après 30 millions d'amis, après la SPA, nous essayons cette année la Fondation Brigitte Bardot. Je pense qu'on les aura tous faits. 30 millions d'amis, on avait eu un peu des soucis parce que ça avait été un peu compliqué. Ils nous demandaient après beaucoup, beaucoup de choses concernant la stérilisation des chats, hein, bien évidemment. La SPA, l'année dernière, ça a été vraiment très, très rigide et là aussi, encore une fois, très compliqué. Donc, c'est pourquoi, toujours pour l'enveloppe budgétaire de 700 euros, nous vous proposons cette année de conventionner avec la Fondation Brigitte Bardot, qui nous permet, grâce à une équipe ô combien dynamique et qu'on remercie, surtout composée d'Olivier, on va dire, Il y avait Véro avant, mais maintenant, il y a plutôt Olivier et Olivier, qui est notre trappeur tillois et émérite, qui se charge de la capture, d'emmener chez le vétérinaire, de ramener chez du vétérinaire, de faire les premiers soins, etc., et de remettre en liberté les animaux stérilisés. Donc, on en a fait, je pense... un certain nombre, j'ai pas exactement les chiffres, mais depuis, et il y en a beaucoup moins maintenant, enfin, je pense qu'on s'en est tous aperçus quand même dans le village, qu'il y avait aussi beaucoup moins de chats errants. Donc c'est vraiment quelque chose qui a bien fonctionné. Et donc là, on change de formule, parce que c'est vrai que, alors 30 millions d'amis, je crois qu'on l'a fait deux fois. La SPA, donc l'année dernière, une fois. Et alors vraiment, pour les joindre, pour essayer d'obtenir des infos et tout ça, ça a vraiment été une catastrophe. Donc c'est pour ça que cette fois, on essaye la Fondation Brigitte Bardot. Et puis, on verra bien si après, il y a d'autres associations qui nous proposent la même chose.
À savoir qu'on a eu aussi un plan adoption qui a bien marché sur le village.
Voilà, quand même... un plan adoption. C'est-à-dire qu'il y a des bébés qui sont placés.
Voilà, qui sont placés et... il y en a eu au moins 1, 2, 3, 4, 5, entre 5 et 7 quand même. Donc c'est quand même pas mal. C'est-à-dire que du coup, là aussi, il y a des gens qui ont récupéré des petits chats qui avaient été stérilisés, qui avaient pu être un peu apprivoisés. Nous, on en a quelques-uns dans la buanderie de temps en temps, dans la trappe pour commencer. Et donc, du coup, c'est à poursuivre.
Donc cette somme de 700 euros, elle permet de stériliser environ une douzaine de chats selon le sexe, puisque en fait le montant varie entre les femelles et les mâles, et ça on ne le sait pas à l'avance, au moment de la capture.
Cher, quoi. C'est toujours moins cher pour les mâles.
Pour les garçons.
Quoi,
avec deux briques.
Non, parce qu'il n'y a pas de...
Jean-Marc.
C'est externe. C'est externe comme intervention.
Oui, c'est pas la même intervention. Voilà.
On paye à l'intervention.
Oui, on paye à l'intervention, en fait. Et en fait, il faut savoir aussi que la Fondation Brigitte Bardot alloue pour l'association donc de Véro qui s'en occupait des bons aussi en plus, en supplément, qui permettent si besoin de stériliser d'autres chats si on avait besoin. Il y a aussi ce système. C'est une fondation qui est un peu plus c'est un peu plus souple, en fait, parce qu'il y a différents moyens d'obtenir. Alors, il y a les conventions qui sont signées avec les collectivités, mais aussi il y a des associations comme celle donc de Véro qui existe et qui obtient de la fondation des bons pour la stérilisation si des fois on venait en avoir plus. Mais là, je pense que quand même, avec à peu près 12 stérilisations pour l'année, on devrait faire l'année comme ça. Mais encore, donc, un grand merci à Olivier, hein, parce qu'il faut trapper, il faut capturer.
C'est, en ce moment, c'est un peu plus compliqué, parce qu'on est en hiver.
Ouais.
Et du coup, ils cherchent des coins chauds, quoi. Enfin,
c'est ça. C'est plus compliqué. Est-ce que vous avez des questions?
Maintenant, les chats, ils finissent par reconnaître Olivier, parce que c'est le seul trappeur.
Je ne sais pas.
Et qu'ils s'en méfient, du coup.
Il laisse qu'il le voit arriver. Non, mais il prépare bien la bouffe.
C'est un vrai trappeur maintenant.
Ouais.
Il a été bien formé par Véro et maintenant, du coup, c'est le professionnel maintenant. On est très contents. D'autres questions? Je soumets donc cette délibération à votre vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Adopté. Je vous remercie. Enedis qui nous demande la signature d'une convention de servitude. Alors, il y a quelques mois, enfin l'année dernière, nous avons fait installer un coffret forain pour les camions pizza, pour qu'ils puissent se brancher sur le réseau électrique. Et il y a donc les travaux avaient été effectués. Il y a toute une tranchée le long du mur du cimetière. Et Enedis nous demande de signer une convention pour, s'il y a besoin, de pouvoir intervenir sur cette ligne électrique. Donc voilà, c'est tout simplement une convention de servitude qui est assignée entre Enedis et la commune pour leur permettre de pouvoir intervenir sur cette parcelle qui s'appelle la parcelle A758. La convention qui était jointe avec les documents et qui est donc le long du mur
chez M.
Ah, mais on voit la photo derrière, d'ailleurs. Voilà, le long du mur. Est-ce qu'il y a des questions sur cette convention? C'est classique, hein, pour permettre à Enedis, s'il y a un problème, de pouvoir creuser. Je propose donc cette délibération à votre vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions adoptées. Je vous remercie. Donc, en l'absence de Vincent, je vais présenter la délibération suivante. C'est la rétrocession du chemin de la Braillonne. On nous avait demandé donc la possibilité de construire le lotissement, la ferme de Lisette, qui se trouve donc chemin de la Braillonne. Et on avait donc acté que ce lotissement de 4 maisons pourrait se construire à condition que le chemin de la Braillonne soit élargi pour permettre aux camions poubelles de pouvoir rentrer dans le chemin et puis surtout aux camions de pompiers de pouvoir aussi intervenir parce que le chemin, il n'était pas large. Donc il a fallu casser le mur. Le décaler sur la propriété donc de la SARL La Forge, reconstruire le mur et donc maintenant il vous est proposé d'acquérir à titre gracieux hein, les 25 mètres carrés qui ont donc été gagné sur la voie pour nous permettre eh bien de faire un chemin de la Braillonne tout neuf, on va dire, qui en a bien besoin. Et donc c'est cette délibération qui propose donc la division de 25 mètres carrés qui a été prélevée sur la parcelle 2116 qui appartient à la SARL La Forge. C'est une acquisition qui est gratuite. Les frais d'acte seront à la charge de la commune. Il n'y a pas d'estimation nécessaire qui est à faire pour ce bien immobilier qui est d'une toute petite surface et pour une commune comme la nôtre qui est moins de 2000 m2 puisque c'est donc une acquisition qui est gratuite. Est-ce qu'il y a des questions sur cette acquisition ? Oui, en fait, on va donc sur la partie jusqu'après le lotissement, la ferme de Lisette, cette partie va être goudronnée. Et après la ferme de Lisette jusque les deux maisons d'après, il va y avoir un bicouche. Puisqu'il y a ensuite 3 maisons qui sont desservies. Pour mémoire, vous savez tous que c'est, pour l'instant, c'est un chemin de terre, hein, tout simplement. Et donc là, il va y avoir toute une partie qui va être mise en bicouche jusqu'après ces 2 maisons, de manière à ce que les personnes puissent accéder à leur maison, que ce soit propre, quoi. Et enfin, accessible facilement. Voilà, donc goudronné jusqu'à la ferme de Lisette inclus, pour pouvoir permettre aux camions poubelles de pouvoir pénétrer dans le lotissement, prendre les poubelles. Et les poubelles, normalement, des 3 maisons suivantes, on avait demandé aux promoteurs de faire une plateforme un petit peu plus grande pour que les 3 personnes puissent poser leurs poubelles également à cet endroit pour les collecter là et permettre aux camions de pouvoir rentrer et repartir par le chemin de la Braillonne. Donc le feu a été déplacé et déjà il est remis en service normalement. Et une fois que qu'on aura acquis ce petit bout de terrain, on a fait faire les devis par effage pour pouvoir réaliser, je pense, d'ici le printemps, les travaux qui sont attendus par les riverains du chemin de la Braillonne, je pense. Puisqu'il y a quand même des maisons qui n'ont encore jamais eu de route. Voilà. travaux qui se feront également avec des travaux sur la rue du Stade. Alors, pas tout neuf, hein, la rue du Stade, hein, le chemin du Stade, pardon. Oui, chemin du Stade, puisque, en fait, le chemin du Stade est en très mauvais état, mais on ne peut pas le faire refaire maintenant, puisqu'il fait partie de la tranche 3 de l'assainissement, et que c'est la tranche suivante au niveau de la réalisation des travaux d'assainissement. Donc, on espère qu'ils interviendront en 2025. Donc, ça ne sert à rien de faire un chemin tout neuf, puisque le chemin va être tout ouvert. Et donc là, on a également vu avec l'entreprise FH qui nous a fait une proposition pour pouvoir faire quelque chose de... alors, pas de définitif, mais de consolidation, on va dire, pour qu'il y ait moins de trous. Voilà. Donc je pense que ça se fera à peu près en même temps. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur cette rétrocession du chemin de la Brayonne ? Non. Donc je propose à votre vote, est-ce qu'il y a des votes contre, des abstentions? Adopté, je vous remercie. Ensuite, nous intervenons, oui, pour le règlement intérieur du Conseil municipal avec le retrait du débat d'orientation budgétaire. Alors, nous avions, lors de l'établissement de notre règlement intérieur, prévu un débat d'orientation budgétaire. C'est une obligation légale, mais pour les communes d'au moins 3500 habitants et les communautés de communes qui ont au moins une commune de plus de 3500 habitants. C'est pas notre cas. Et donc, c'est pour ça qu'on vous propose de modifier l'article 21 du règlement intérieur, pour que notre commune ne tienne pas de débat d'orientation budgétaire, car nous n'en avons tout simplement pas l'obligation. Alors, pour rappel, j'ai pris, hein, si cela vous intéresse, le rapport d'orientation budgétaire qu'on avait présenté l'année dernière. Bon, ça fait 9 pages. C'est un document qui est qui demande du temps dans sa rédaction. Et je préfère qu'on prenne ce temps lors de la prochaine commission finances qu'on a ouvert à tout le monde pour pouvoir pouvoir en débattre, parce que un débat d'orientation budgétaire, il y a d'abord une partie avec un contexte mondial et national. Donc ça, on peut débattre tous les jours de ce qui se passe dans le monde au niveau national. Il y a bien évidemment le bloc communal. Il y a aussi tout ce qui est projet de loi de finances. Donc ça, c'est des choses qui sont pas toujours très digestes et qui, surtout au niveau de notre commune, ne vont pas changer la face des choses, parce qu'on sait qu'on a des frais de fonctionnement qui sont importants. On sait que les réduire, c'est compliqué. On sait qu'on va avoir une masse salariale qui a augmenté, puisqu'il y a eu des points d'indice qui ont été changés. On a recruté un directeur du périscolaire. Donc il y a des choses qu'on sait. On sait que nos emprunts diminuent et qu'en 2026, on n'en aura pratiquement plus. Donc ça, ce sont toutes des choses que l'on débat donc lors de ce débat d'orientation budgétaire. Mais je préfère réserver tout ce temps de discussion lors de la prochaine comme finance, de manière à ce qu'on établisse quelque chose de plus pragmatique et de plus proche des préoccupations de notre commune et de ce que l'on veut y faire, plutôt que de débattre en conseil municipal de tous les faits de ce qui se passe dans le monde, bien qu'on peut en débattre, hein, c'est pas un souci, mais ça ne s'appellera plus rapport d'orientation budgétaire. Voilà. Est-ce que vous avez des questions concernant cette modification donc de notre règlement intérieur? Non, pas de questions. Donc je propose cette délibération à votre vote. Est-ce qu'il y a des votes contre, des abstentions? Je vous remercie. La délibération suivante, ça concerne la salle des fêtes, hein, l'endroit où nous nous trouvons, concernant la révision des tarifs de location. Alors, on avait des tarifs qui avaient été votés en novembre 2020. Petit rappel, pour les Tillois, c'était 150 € pour la petite salle de réunion. La grande salle et la petite salle, c'est 350 €. Et en fait, il y avait ces tarifs. C'était la location, elle était effective du samedi matin jusqu'au dimanche 11h. On s'est aperçu, à force de pratiquer, que c'était compliqué de trouver des créneaux horaires pour remettre les clés, pour récupérer le dimanche matin les clés, parce que, enfin, comme Jean-Marc ou moi-même, ça nous est arrivé, soit les personnes, elles avaient fini plus tôt, donc on n'était pas disponible toujours pour venir récupérer les clés plus tôt. Soit où on venait à la bonne heure, mais on ne pouvait pas rentrer dans la salle des fêtes parce qu'ils venaient juste de finir de nettoyer et que c'était compliqué. C'est pour ça que il nous semble plus judicieux de louer la salle des fêtes pour le week-end. Comme ça, les personnes, elles disposent de la salle des fêtes, elles viennent récupérer les clés le vendredi après-midi et font l'état des lieux avec les filles à la mairie. Et puis, elles mettent les clés, comme elles le font maintenant, dans la boîte aux lettres le dimanche, une fois qu'elles ont fini de nettoyer. Il n'y a pas d'horaire. Personne n'est sous pression pour pouvoir remettre les clés. Et puis, si les personnes veulent profiter... moi, ça m'est arrivé de venir récupérer les clés. Les personnes étaient en train de finir de manger un bout de gâteau. Et donc voilà, quoi. Le mieux, c'est de prévoir une location au week-end, finalement, plutôt que de dire c'est du samedi 11h jusqu'au dimanche lendemain 11h. Les personnes disposent de la salle des fêtes pendant tout le week-end, avec donc un tarif, puisque c'était 350 plus 90 € si on gardait la journée supplémentaire. Donc, il vous est proposé un tarif de 450 €, alors pour les Tillois, hein. Pour donc tout le week-end, ce qui fait du vendredi, quand on donne les clés, jusqu'à ce que les personnes aient fini de nettoyer la salle et mettre les clés dans la boîte aux lettres. Et comme ça, on fait l'état des lieux le lundi matin, tranquille, sans pression. Voilà. Est-ce qu'il y a des question.
Oui. Une question.
Oui.
Il m'est arrivé avec les Cali Nounou, c'est une association.
Oui, mais que ce soit.
À Ballan, de nous retrouver à deux associations. Alors là, ça peut être deux familles qui louent dans le week-end. Et nous est arrivé, par exemple, le samedi, vendredi soir, samedi, ils avaient fait un événement. Et nous, on louait le dimanche. Donc, on avait fait l'état des lieux entre nous, et le lundi matin, il y avait l'état des lieux de fait avec les élus. Est-ce que là, dans ce cas-là, s'il y a deux familles qui veulent qui le samedi et qui le dimanche, ça pourrait se faire ou pas ?
Ben, je sais pas. Je sais pas. C'est soit il y a un accord entre les deux familles, oui, voilà. Je dirais, et puis les personnes partagent la somme, hein, pourquoi pas, hein. Ou les deux associations,
mais
si c'est...
Mais qui est un responsable.
Ah ben...
Parce que après, c'est pas moi, c'est lui qui a déconné,
c'est ça.
Machin. Ouais. Bah, y a
mon avis,
qui est
après, vous faites votre mixture après coup, enfin, mon avis. Hein, c'est... Ouais. Parce qu'autrement, quand il y en a deux, on dit, oh ben nous, on était bien, la salle, c'est d'autres.
Après, celui qui prend deuxième, s'il voit
que c'est bien avec
il peut prendre des photos, je dirais, à la rigueur. Mais c'est vrai que...
Bah c'est quand même plus facile si nous, on loue à un seul interlocuteur.
Ouais, donc, peut-être que c'est avoir au cas par cas, ouais. Si vraiment...
Oui, si vraiment il y avait... Enfin, franchement, depuis le début, je pense qu'on... Alors, à part à une association, et puis le lendemain, un particulier fait. Qui vient récupérer, ça, oui, c'est déjà arrivé. Mais ça pose pas de problème, généralement, parce que l'association, le vendredi soir, elle fait son ce qu'elle a à faire. Et puis, le samedi matin, le particulier qui a loué vient prendre les lieux, quoi, il n'y a pas de souci. Mais entre deux privés, on n'a jamais eu le cas. Je dirais, comme le dit Jean-Marc, c'est bien s'il y a un seul... Dans ce cas-là, s'il y a un seul interlocuteur et un seul responsable. Parce que sinon, comme dit Jean-Marc, c'est pas moi, c'est l'autre, quoi. Donc, voilà. Donc, et puis, enfin, la salle des fêtes, elle n'est pas non plus louée... tout le temps, quoi. Hein. Mais c'est vrai que c'était trop compliqué de faire comme ça. Et puis en plus, après, on le faisait pas. Parce que moi, ça m'est arrivé où les gens m'appellent en me disant, ça y est, j'ai fini. Mais moi, j'étais pas là, quoi. J'étais partie faire une course ou quoi. Donc, il faut se dépêcher pour venir rendre les clés. Ou des fois, t'arrives, puis les gens, ils ont pas fini. Donc, t'as un peu l'impression de les forcer. Enfin, voilà, c'est comme ça, c'est plus facile, quoi. Voilà.
Et puis on donne les clés le vendredi soir, mais ils ont la salle que le lendemain matin.
Ouais, mais ça, ils le savent, on se met d'accord avec eux, quoi, en fait.
Ils ont la salle que le lendemain matin, donc le vendredi soir, tu peux avoir une association qui puisse...
Mais il y a d'ailleurs une association tous les vendredis soirs. Il y a les clubs des écrivains. Mais donc,
le fait de donner la clé, c'est pour qu'ils puissent l'avoir le lendemain.
Dans la nouvelle salle, ce sera des badges qui vont ouvrir, voilà. Ça sera mieux.
C'est bien.
Ça sera mieux. D'autres questions ? Non ? Alors, je soumets cette délibération à votre vote. Est-ce qu'il y a des votes contre ? Des abstentions adoptées ? Je vous remercie. On va rester dans la salle des fêtes avec la modification du règlement intérieur. Alors ça, c'est un petit plus que l'on souhaite donner au personnel communal. On n'a pas, comme dans d'autres communes qui sont proches de nous, beaucoup d'avantages qui sont donnés, comme les tickets restaurants, comme ce genre de choses. On ne fait pas ça pour le personnel communal. Et donc, c'est pour ça qu'on souhaite leur permettre, à titre donc personnel et une fois par an, et à condition que ce soit eux qui soient présents à la soirée sans pouvoir la louer pour leur compte, bien évidemment, permettre donc au personnel communal de louer une fois par an la salle des fêtes à un tarif préférentiel, au tarif de 100 € pour le week-end. Ça permet donc de donner un petit plus au personnel communal, parce qu'on ne leur donne pas spécialement, on n'a pas la possibilité, nous, de leur donner des avantages comme d'autres communes. Et donc, voilà, c'est pour leur donner un petit plus. Donc voilà, le tarif serait 200 € par... Ouais, ça vous convient ?
Ouais.
Bien. Très bien. Donc, je vais soumettre cette délibération à votre vote. Est-ce qu'il y a des votes contre ? Des abstentions adoptées. Je vous remercie pour eux. Nous allons passer au RLPI, règlement local pour la publicité intercommunale. Alors, donc, c'est quelque chose qui a été décidé en conseil communautaire, d'avoir un règlement local pour la publicité qui soit intercommunal. C'est-à-dire que c'est un tout petit peu pour permettre... d'avoir des choses un petit peu harmonieuses. Alors, si on peut faire défiler... On peut se mettre en plein écran, on peut... Non. Oui, non. Oui, c'est bon, merci. Alors... Ça va être long comme ça à chaque diapositive ? Non. C'est le soir, je pense. Hein,
ouais,
c'est le soir de. C'est le soir de l'ordinateur qui ne fonctionne pas.
Le matériel fatigue autant que l'humain.
Moins, plus.
Ouais,
plus.
Hein, quand
Alors, qu'est-ce qu'un règlement national qu'est-ce qu'un règlement pour la publicité ? Si on peut faire défiler. Alors, on considère que la publicité, il y a plusieurs types de publicité. Il y a la publicité, les préenseignes et les enseignes. Donc, publicité, toute inscription, forme ou image destinée à informer le public ou attirer l'attention. Les préenseignes, toute inscription, forme ou image signalant la proximité d'un immeuble où s'exerce une activité déterminée. Et l'enseigne, toute inscription, forme ou image apposée sur un immeuble et relative à une activité qui s'y exerce. Alors, on n'a pas le plein écran, mais c'est pas grave. Hein,
Pourquoi vous l'avez pas, moi, je
voilà. C'est pas grave. On va essayer de défiler, sinon on n'y arrivera pas. Voilà, donc ça, ce sont des exemples de publicité, de préenseigne et d'enseigne. Alors, les exemples ont été choisis sur des exemples locaux.
Voilà.
On continue. Que dit le règlement national ? Alors, le règlement national, il précise que, il délimite, en fait, où peut se tenir la publicité, comment elle doit être, de quelle dimension elle est, et où elle peut se situer. Donc il y a de la publicité qui peut être sur du mobilier urbain, sur des bâtiments, avec des préenseignes et tout un tas de dispositifs possibles. Ça, c'est là le dispositif, la loi au niveau national. Il y a des dispositifs qui ne sont pas concernés, qui sont la signalisation routière, la signalisation... Tu peux passer la slide d'après, parce que nous, on l'a déjà. On a celle de voilà. Les non concernés, donc, c'est la signalisation routière, la signalisation d'information locale et le relais d'information service. Les dispositifs qui ne sont pas concernés non plus, c'est le mobilier urbain, tels que les panneaux lumineux ou les véhicules qui sont équipés de publicité, mais qui les concernent directement. Donc les types, ça sont les enseignes, puisqu'il faut, il faut différencier la publicité des préenseignes et des enseignes. Donc l'enseigne, ce sont des enseignes qui peuvent être scellées au sol, qui peuvent être murales ou qui peuvent être sur toiture. Il y a aussi ensuite des enseignes sur les façades. On en reconnaît certaines. Il y a des dimensions qui sont permises ou pas permises. Des enseignes qui sont scellées au sol avec des préconisations par rapport à leur surface maximale. Des enseignes sur toiture avec des lettres ou signes découpés sur des surfaces plus ou moins grandes. Ça, c'est par exemple cette enseigne qui se trouve à Miribel. Elle est illégale parce qu'elle est sur une structure apparente. Et depuis que nous avons lancé l'élaboration du règlement local sur la publicité, l'enseigne qui était sur le Leclerc n'y est plus. Parce que sur le toit, c'est interdit. Il y a aussi des enseignes qui sont lumineuses à l'intérieur des vitrines. Ça fait aussi partie des enseignes. Et puis on peut donc agir sur leur illumination, on va dire, sur les horaires à laquelle elles peuvent être allumées ou pas. Donc sur notre territoire, il y a 120 dispositifs qui ont été recensés, dont 20 concernant du mobilier urbain. Je sais pas si... Donc 60% grande surface, majorité scellée au sol et très peu d'éclairés et quelques numériques. Alors on voit, hein, il y a sur Miribel, le slide d'après, Miribel, les échettes à moi, et puis dans la grande majorité sur le long de la route départementale. Je ne sais pas si vous avez regardé depuis la COMG de vendredi, pour ceux qui étaient présents, si ça vous a, parce qu'on en a, non, ça vous a pas, bon, ici, tant pis. Le rond-point de Thierry, celui qu'on va voir après.
Ah oui, tu veux dire d'aller
le rond-point de Thierry, là, où en fait...
Ah oui, j'ai parfait, gamin.
Où en fait, on s'aperçoit, par exemple, que sur ce rond-point, derrière, il y a des arbres. Et ça ne marche plus. Et qu'en fait, on peut réglementer ce type d'enseigne en disant on en veut moins ou on en veut des plus petites parce que justement il y a des arbres derrière et que ce qui nous intéresse c'est de mettre en valeur les arbres. Donc ça sont quelques illégalités puisque ça c'est ce qu'on appelle un mur non aveugle et puis ensuite... donc des surfaces de façade qui ne sont pas respectées, pourtant c'est l'office de tourisme, mais la surface est trop grande par rapport à la façade. Cette hauteur-là, elle n'est pas légale parce qu'elle est trop haute. Et celle-ci est supérieure à 6 mètres carrés, pourtant elle nous concerne, mais normalement elle n'est pas légale. Les secteurs en jeu, eh bien alors là on définit des secteurs avec du patrimoine naturel, du patrimoine architectural, un axe de circulation principal, des zones commerciales à organiser en fonction justement du fait qu'il y a des commerces et que l'on veut privilégier les enseignes et les préenseignes dans ces endroits puisque c'est un peu l'objet de pourquoi elles existent. Et puis, bien évidemment, les limites du territoire de notre territoire. Donc, les constats. Qu'est-ce qu'on dit ? Concentration des dispositifs sur les deux axes principaux. Les entrées de ville sont assez dégradées. Un quart des dispositifs en infraction avec le règlement national de la publicité. Il y a un peu de présence de publicité numérique et souvent du matériel de qualité médiocre.
Pour les enseignes, il y a de bonnes réalisations, des enseignes qui sont perpendiculaires, qui sont mal implantées, des enseignes scellées au sol de formes diverses, nombreuses enseignes sur toiture qui sont illégales et la présence d'enseignes numériques. Donc l'idée, c'est vraiment après de trouver les orientations, donc c'est ensuite, où on pourra limiter la densité en disant par exemple qu'à cet endroit, on n'en veut plus qu'une à la place de deux, qu'on la veut d'une autre taille. C'est la slide d'après. Adapter donc la surface des dépôts positifs, de changer au lieu de 12 mètres carrés, comme le définit la loi par exemple. Ça, c'est des exemples, hein, passer à 10,5 mètres carrés. Préserver les entrées de ville, hein, c'est-à-dire qu'à l'entrée de la ville, par exemple, donc là c'est Néron, et bien celle-ci, elle, je crois qu'elle n'est pas légale hein, dans tous les cas, mais faire supprimer ces dispositifs. Exiger donc un matériel de qualité, hein. Il y a de plus en plus d'enseignes, si vous regardez un petit peu, qui sont sur des présentoirs qui sont quand même un petit peu plus modernes et avec un pied comme ça central. Là aussi, on pourra définir quelque chose qui sera partout pareil, pour pas avoir justement des dispositifs qui peuvent être de bonne qualité, mais qui peuvent être disparates. Identifier aussi des secteurs pour accueillir du numérique, peut-être plus sur des zones commerciales, mais pas par exemple dans des centres-villes ou dans des endroits où ça peut être gênant pour la circulation, tout simplement, parce qu'un panneau numérique, quand il clignote ou qu'il affiche de la publicité, eh bien, il peut perturber l'œil quand on conduit. Donc là, c'est celui qui est sur Sport Évasion là, à Bénaud, juste en face du rond-point Thirier. Traiter donc la publicité lumineuse à l'intérieur des vitrines, ça c'est aussi des choses sur lesquelles on peut agir.
À l'intérieur ?
Ouais. Oui. On peut limiter par exemple, on peut demander à ce que ça s'éteigne la nuit.
Ah, ça s'éteigne.
Ce genre de choses.
Admettre la publicité sur le mobilier urbain dans des secteurs protégés, par exemple, ça c'est des abords ou des écoles ou des choses comme ça.
C'est pas des MH.
Des secteurs d'habitation. Comment ?
C'est pas des MH.
Maison d'habitation, je pense. Élargir la plage horaire d'extinction, on peut demander plus que ce que prévoit la loi, parce que ça, c'est déjà légal au niveau de la loi. Normalement, toutes les enseignes lumineuses...
1h-6h.
Comment ?
1h-6h.
Ouais, doivent s'éteindre entre 1h du matin et 6h du matin. Ça, c'est la règle. Toutes celles qui sont allumées toute la nuit, c'est pas légal. Alors, on peut étendre ces plages horaires et surtout essayer de faire respecter cette réglementation qui n'est pas beaucoup. Poursuivre les efforts donc, de respect de l'architecture, avoir des choses qui sont assez proportionnées. Limiter aussi le nombre des enseignes perpendiculaires. Ça, c'est dans la grande rue de Miribel. On regarde un peu, et même à Saint-Maurice-de-Bénaud, on s'aperçoit que ces enseignes comme ça, perpendiculaires, y en a plein, et qu'elles ne sont pas à la même hauteur, bien évidemment, elles n'ont pas la même forme. Et là aussi, l'objectif dans le règlement qui est en train d'être élaboré, c'est d'essayer de faire des choses qui soient un peu pareilles, quoi. Et là, on s'aperçoit en plus... Alors peut-être pas ces endroits-là, mais il y a certaines enseignes perpendiculaires qui n'ont plus du tout lien avec le commerce qui est en dessous. En fait, l'enseigne, elle est restée, mais le commerce n'y est plus. Et c'est par curiosité, vous regarderez et vous vous apercevrez que dans plusieurs endroits, c'est comme ça.
Oui, mais alors dans ce cas-là, tu m'en as qui d'enlever l'enseigne ?
Eh bien, c'est justement là le problème. Normalement, il faut retrouver... l'exploitant qui doit s'en charger. Hein. Mais encore faut-il qu'il y ait un règlement ? Et par exemple, dans la commune de Miribel, il n'y a pas de règlement, donc c'est la loi qui s'applique. Et là, c'est plus compliqué, alors qu'une fois qu'il y a un règlement, c'est plus facile par rapport à la police municipale de faire respecter les règles ou de moins d'aller voir les propriétaires pour leur demander de se mettre en conformité. Après, une fois que le règlement est approuvé et accolé au PLU, il y a 2 ans hein, pour que les propriétaires se mettent en conformité. Donc, c'est pas non plus, ils n'ont pas la pression non plus. Hein. Pareil, donc harmoniser le format et la surface des enseignes qui sont scellées au sol, parce que ça, ce sont des enseignes scellées au sol qui sont encore différentes. Entre ça et ça, c'est pas la même chose et ça n'a pas le même impact. encadrer donc les enseignes numériques. Hein, ça, ce sont des enseignes qui sont, je pense que vers le centre commercial et qui sont, ça passe pas mal d'images hein, chez Jiffy. Je ne sais pas si vous avez déjà vu sur le bâtiment, c'est assez.
Bon, après, c'est le lieu, c'est pas sur la route non plus.
Oui, non, mais là, oui, c'est.
C'est fait pour d'attirer l'attention.
Oui, mais on peut, si on a un règlement, on peut définir une taille. Pas qu'il y en ait sur chaque. Si tu en as sur chaque bâtiment, au moins qu'elles soient harmonisées dans leur taille, quoi. Traiter donc les enseignes lumineuses à l'intérieur des vitrines. Et donc fixer des horaires d'extinction identiques à ceux. Donc de la publicité ou surtout des extinctions de
comme les, bah, comme nous, par exemple, comme les communes. Par exemple. Ça pourrait être 11h, 6h au lieu de 1h, 6h.
Voilà, donc ouais. C'est ce qui vous est proposé. Alors ça, c'est pas un vote, hein, c'est juste un débat pour vous informer de tout ce qui va être mis en place et puis de tout ce qu'on souhaitera faire. Alors, c'est vrai que nous, on est moins impactés que Bénaud, par exemple, mais toutes les publicités qu'il y a dans la commune, on peut aussi fixer un tarif parce qu'on peut les taxer. Ça, c'est quelque chose qui n'existe pas chez nous. Est-ce qu'on le fera ou est-ce qu'on ne le fera pas? Est-ce que le jeu en vaut la chandelle ou pas? Mais c'est quelque chose qu'on peut élaborer. Et même en faisant un règlement intercommunal, chaque commune restera bénéficiaire, si je puis dire, de l'argent qui sera demandé pour ces panneaux publicitaires. Imaginez bien que pour la commune de Bénaud, ça représente une somme d'argent qui est plus qu'importante. Hein, alors que pour
même les propriétaires de terrain qui prêtent leur terrain pour mettre ces panneaux, ils sont indemnisés.
Oui, eux sont indemnisés, mais nous, on peut aussi demander hein, pour avoir un panneau sur. On peut demander une contrepartie. Mais encore faut-il l'élaborer et le voter et définir un prix. Voilà ce qu'il vous est proposé. Donc, il y aura d'autres. Il y aura d'autres réunions sur bien évidemment cette élaboration qui commence, qui va être faite dans chaque commune. Mais encore une fois, l'objectif, c'est d'avoir une harmonie. Hein, quand on prend la route départementale, d'avoir à peu près toujours les mêmes panneaux avec la même taille. Et puis on peut aussi contrôler la publicité par elle-même, dans le sens où on peut interdire, par exemple, qu'il y ait une publicité pour une manifestation culturelle qui se passe à 500 km de chez nous. Parce que on peut dire que ça n'a pas d'intérêt. On peut dire, on veut bien, par exemple, que un salon à Eurexpo soit affiché, mais pas le salon de l'agriculture, par exemple. C'est des choses qui peuvent être réglementées. Tout à peu près se réglemente, mais encore faut-il le dire et l'écrire. Voilà, c'était simplement pour que vous preniez acte de ce qu'il va être élaboré dans les mois à venir. On y reviendra de manière plus précise prochainement. La délibération suivante, qui appelle à cette fois un vote, c'est la nomination d'un référent déontologue. Alors, on en a parlé en COMG. Depuis le 1er juin 2023, tout élu local peut consulter un référent déontologue dédié, chargé de lui apporter tout conseil utile au respect des principes déontologiques. Ça, c'est une obligation. Et donc, nous sommes donc dans l'obligation de désigner par délibération un ou plusieurs personnes qui sont désignées à destination des élus. Donc, ce référent déontologue accompagne les élus afin de les prémunir contre les risques juridiques et en particulier les risques de poursuites pénales liées, par exemple, aux situations de conflit d'intérêts dans lesquelles ils peuvent se trouver. Alors, la communauté de communes a procédé au recrutement d'un déontologue qui s'appelle Monsieur Kerléo, qui est professeur de droit public à Aix-Marseille Université et qui pourra intervenir sur tout le territoire sur demande. Donc, il y a un coût, bien évidemment, hein, qui est de 80 € par dossier, mais il nous a semblé,
utile de retenir le même déontologue qui a été recruté par la CCMP pour pouvoir donc interroger si nécessaire. Donc chaque élu peut, s'il le souhaite, solliciter ce déontologue. Et en fait, tous les échanges que vous pourriez être amené à avoir avec lui sont bien sûr complètement confidentiels et entre vous et lui et ne sont communiqués à personne d'autre. Voilà, mais c'est quelque chose qui est obligatoire et donc voilà pourquoi on a pris, enfin il vous est proposé de retenir la même personne parce qu'au moins c'est quelqu'un qui est un référent déontologue de notoriété, si je puis dire. Voilà. Que vous avez des questions ? Oui.
Oui, le 80 euros, c'est bien la CCMP qui
fait. Ah non. Ça dépend. Ça dépend dans quel cadre on le sollicite. Si on le sollicite pour, par exemple, par rapport à quelque chose qui se passe dans une commission au niveau de la CCMP, oui. Mais si c'est quelque chose par rapport à un conflit d'intérêts au niveau de la commune, c'est la commune qui paiera. Non, non. Le prix, il est le même pour la CCMP que pour nous. C'est, le tarif est identique. Mais ça dépend pourquoi on le sollicite. Si c'est à titre de la commune, c'est la commune qui s'acquittera de la somme.
Mais c'est la CCMP qui facturera, pas Carléon, pas M. Carléon.
C'est ça ?
Oui, c'est ça.
Mais c'est la CCMP donc qui nous facturera et pas M. Carléon.
C'est une convention de prestation de service, en fait.
Voilà.
Ah, c'est parce que c'est la CCMP qui l'a recruté. Et si on fait appel à ses services, c'est la CCMP qui nous facturera l'intervention.
Voilà.
Parce que la CCMP règle directement M. Carléon.
Merci Sandra pour ces précisions. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Je vais donc proposer cette délibération à votre vote. Est-ce qu'il y a des votes contre ? Des abstentions ? Adopté. Je vous remercie. Et on va passer à la délibération suivante, qui sera la dernière, concernant la révision des statuts communautaires de la communauté de communes concernant la culture et l'éducation. Alors, il y avait, si je puis dire, Babette, hein, une espèce de flou concernant l'aspect culturel de la compétence culture au niveau de la CCMP, surtout concernant l'enseignement artistique et culturel à destination des enfants du scolaire. Puisqu'en fait, la communauté de communes, elle a la compétence culture, mais elle n'a pas la compétence culture auprès des scolaires. Ce qui fait que quand on emmène des scolaires à l'Allegro pour suivre une représentation du TAL, c'était pour l'instant, c'est la communauté de communes qui finance, puisque c'est une opération culturelle, mais comme c'est dans le cadre scolaire, et ben c'est pas légal. Donc l'objectif, c'est de proposer une révision avec des critères qui sont changés, en incluant donc l'enseignement artistique et culturel à rayonnement intercommunal, c'est-à-dire que du moment qu'un spectacle est destiné à tous les enfants de l'école, ça devient intercommunal, et comme cela, c'est pris en charge par la communauté de communes. Alors donc, on inclut bien sûr l'école, l'AMD, l'école de musique et de danse, mais ça c'était déjà dans la compétence, et ça on ne revient pas dessus. L'éveil musical en structure petite enfance, ça c'est aussi quelque chose.
Puisque les mimes se sont payés par la
qui existait. Voilà. L'enseignement musical en milieu scolaire, donc ça, l'orchestre à l'école, ça en faisait déjà partie. L'animation et la coordination, bouge pas ton, parce que ça se. Et mise en œuvre du réseau de lecture publique, ça c'est des choses aussi qui fonctionnent déjà. L'étude d'opportunité et de programmation d'un espace culturel et touristique. Ça, c'est par rapport à l'office de tourisme. L'action d'animation et de promotion du cinéma à rayonnement intercommunal, hein, puisque la DSP, la délégation de services publics pour le cinéma, a été adoptée et votée il y a 15 jours. Et reconnue au stade de rayonnement intercommunal, donc festival et projet d'influence communautaire. Les actions des associations dont le siège social est situé sur le territoire de la CCMP œuvrant à la diffusion et la programmation culturelle tout au long de l'année et répondant à deux critères cumulatifs suivants. L'association accueille des adhérents d'au moins trois des communes de la CCMP dans une proportion au moins égale à 50% de l'effectif global des adhérents. L'association initie des activités sur le territoire de plusieurs communes. L'association ouvre son activité à l'ensemble des habitants de la CCMP et une contribution au dynamisme et à la notoriété du territoire de la CCMP. Voilà la modification statutaire qui vous est proposée, mais c'est surtout donc pour, comme je vous le disais, régler le fait d'avoir des enfants qui se rendent à l'Allegro pour suivre des spectacles, alors que la CCMP avait la compétence culture, mais pas la compétence de culture à destination des scolaires. Et là, c'est donc pour lui donner ce rayonnement intercommunal et permettre que ce soit que ça reste dans un cadre complètement légal, quoi. Voilà, pour uniformiser tout ça. Est-ce que vous avez des questions? Donc, allier la culture et l'éducation, en fait. S'il n'y a pas de questions, je vais vous soumettre cette délibération à votre vote. Est-ce qu'il y a... Hop, pardon.
Non, rien. Pour les toutes, aller à l'Allegro, tout ça, qui s'est décidé, ça, on dit, bah, tiens, c'est les proposés par la CCMP, dit, bah, tiens, il y aura tel...
Alors, en fait, c'est l'association du TAL qui fait une programmation annuelle avec des spectacles qui sont à destination des scolaires. Voilà. Enfin, Babette, tu...
Il y a un gros volet spectacle scolaire qui est programmé, mais en plus, les programmations, c'est souvent... Enfin, je veux dire... Il faut prévoir à l'avance de la rentrée. C'est-à-dire
mais quand je dis, tiens, on ira à toutes ou à bah, celle-là, ça nous intéresse. Alors, et qui c'est qui décide chez nous?
C'est l'équipe pédagogique. Ouais, parce que c'est vrai qu'ils sont, c'est les mieux à même de savoir qu'est-ce qui va correspondre aux 3-4 ans, qu'est-ce qui correspond aux 5-6 ans, aux plus âgés, aux 10 ans. Et nous, en fait, on a les enfants tillois. Moi, je l'ai redit en commission, d'ailleurs, mardi, puisque je fais partie de la commission culture et sport. Moi, j'ai redit que c'était vraiment une chance extraordinaire et que nos élèves, ils bénéficient d'au moins 2 spectacles par an. Enfin, c'est quand même pas mal. Il y a des tas d'écoles où les gamins, ils vont voir un spectacle, etc. Là, bon, c'est vrai que le sou des écoles, merci à eux, finance beaucoup. Et puis qu'il y a un véritable travail entre le théâtre de l'Allegro et les scolaires. Alors c'est sûr qu'il y en a qui, ceux qui habitent Miribel, ils vont à pied, enfin pas les déchets, mais bon, les autres, ils vont à pied, même Saint-Maurice de Bénou, ils vont à pied. Mais bon, nous, c'est l'éloignement qui est, mais ça n'empêche pas qu'il y ait vraiment une belle programmation.
Oui, c'est ça. En fait, le TAL, finalement, ils ne sont pas obligés de proposer des spectacles scolaires. Mais c'est pour ça que c'est pour asseoir un peu cette compétence-là et pour permettre qu'il y ait toujours cette possibilité d'avoir ces spectacles à destination des enfants. Parce que non seulement il y a le primaire, mais il y a aussi les collégiens, les lycéens. Il y a toute cette programmation qui est à destination, et y compris au niveau danse. Puisque donc c'est pas l'année dernière, mais il y a 2 ans, il y avait eu l'intervenant danse qui avait...
La compagnie stylistique, voilà. Qui avait travaillé avec la classe de CM2, sur CM1, CM2. Et du coup, il y avait eu la présentation du spectacle.
Alors, on avait eu la présentation du spectacle ici à la salle des fêtes, mais les enfants de l'école de Thiel s'étaient produits au théâtre de verdure de Bénaud, voilà. Avec les accompagnants danse de cette compagnie.
Ils sont allés voir le spectacle de danse de la compagnie.
Donc c'est ça, c'est pour en fait asseoir et être... tranquille, si je puis dire, pour que les scolaires et lycéens, collégiens, etc., puissent bénéficier de toute cette programmation culturelle tout au long de l'année.
Théâtre Allegro.
Théâtre de l'Allegro. Oui. En fait, c'est l'association.
Oui, on dit TAL, c'est TA2L.
Oui, c'est TA2L. Mais il y a des spectacles pour les grands aussi. Hein.
Oui.
Voilà. Qui est bien d'ailleurs, qui sont bien. Il
y a des... Je peux pas y aller alors.
Non. Non.
Si tu peux accompagner la classe.
Voilà, mais tu peux grands, accompagner la classe. Je soumets cette délibération à votre vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Adopté. Je vous remercie. Est-ce qu'il y a des questions diverses? Non, pas spécialement. Catherine, non, rien de particulier. J'ai signé la convention pour le frelon asiatique.
Ça me paraît être une bonne chose.
Donc il y aura des pièges qui vont être installés, c'est ça?
Oui, pour piéger les rennes.
Pour piéger les rennes.
Au printemps.
D'accord.
Quand elles vont sortir. Et puis qu'elles vont chercher à faire un nid.
D'accord. Et en fait, c'est des appâts. Ça se présente. Tu sais comment?
C'est comme des pièges à guêpes. Et c'est des pièges un peu spéciaux, avec une grosse entrée et puis une petite sortie pour que ce soit des pièges sélectifs. Que les frelons qui se font prendre ne ressortent pas, mais si c'est des petits insectes, ils peuvent ressortir.
D'accord.
C'est ce que j'ai cru donc.
Je dis n'importe quoi, c'est comme de la confiture qu'il y a dedans, enfin c'est un appât comme ça, je sais pas. D'accord.
C'est avec quelle association?
C'est pas une association, hein,
C'est le département qui à l'origine pilote tout ça.
Ah d'accord.
J'ai perdu le nom là. Un organisme qui est
intervient. Voilà, parce que c'est un organisme.
Comment?
GDS.
Oui, c'est GDS.
GDS. Merci,
Didier. Le gaz, mais...
Un groupement quoi? Groupement?
Des phares sanitaires.
Ah, ok.
C'est pas groupement de frelons, c'est...
Quand tu sais pas, tu demandes.
C'est ça.
Mais ceci dit, c'est important parce qu'on est souvent impacté. Hein. Il y a eu déjà...
Ouais.
Devant l'Utiloir, il y a ouais. un arbre. Nous, on en a eu sur un de nos arbres.
Oui, puis il y en a de plus en plus, hein, le frelon.
Parce que c'est le moyen le plus efficace de lutter contre...
La prolifération, ouais. en fait. C'est d'installer...
C'est les frelons éthiques.
Mais ce ne sera pas après, hein. Il y aura aussi les moustiques.
Aussi.
Oui,
oui. Oui, l'un n'empêche pas l'autre, malheureusement.
Par contre, il faudra bien signaler, peut-être en communication, que tout le monde signale, les habitants signalent.
Les nids.
Oui, parce qu'on peut faire appel à ce moment-là.
Bon, enfin, là, il n'y avait plus de crédit, hein. Oui. Je crois que les crédits avaient été épuisés pour, pour 2023. Mmh. Ouais. Mais je pense que d'ici le printemps, on refera une communication sur les frelons, justement. Mmh. Frelons et moustiques.
Oui, parce qu'après, jusqu'au 1er octobre, on détruit les nids.
Oui.
L'été, on détruit les nids.
C'est ça. Oui, mais le fait d'installer des pièges, ça évite que les frelons nichent. C'est ça. L'objectif, il est là.
Parce que les frelons nichent aussi à l'intérieur. Moi, j'en ai trouvé dans les cahiers à spirale. Dans la spirale, ils avaient fait leur nid tout le long. Je me disais, mais c'est bizarre, comment se fait-il que j'ai autant de frelons dans la maison? Ils sont accrochés aussi au plafond. Et avec un balai, ça s'éclate par terre, il y en a plein. Et c'est des bébés, bien sûr. Donc j'ai aspiré, mais après je me suis rendu compte qu'ils s'étaient installés, nichés dans les cahiers à spirale.
La cuisine italienne qu'ils aiment.
C'est pour ça, moi je suis en train de regarder là, les nids à frelons. Parce que,
les pièges.
Enfin, les pièges à frelons, parce que même quelques-uns, c'est des morceaux comme ça. Hein. Et moi le mien, mon fils est allergique.
Non, oui, puis c'est dangereux. C'est très dangereux.
On ne meurt pas des moustiques, mais on meurt des frelons.
Ça n'attaque pas en principe, ça n'attaque que si on passe pas loin quoi, et qu'on les dérange. Ben, sinon, ça n'attaque pas en principe.
Heureusement.
Pour l'instant.
Pas de questions particulières. Je vais donc mettre fin à la séance d'enregistrement à la mairie de Tilf, fin du séance du conseil municipal le jeudi 15 février 2024. À 21h50. Stop. Oui, donc les